sur 103,5.
Restons toujours dans ces registres crash, pour parler d'ailleurs de solutions à envisager. Depuis le début de l'année, comme vous le savez, de l'année 2007, vous l'ai dit, plus d'un accident d'avion se sont produits à travers le pays. Le dernier en date est le décès 9 de Eva Bora qui partait de Goma pour Kisangani. Accident survenu le mardi dernier dans un quartier populaire de Goma. Officiellement, on parle d'environ 40 morts et d'une centaine de blessés. Un bilan lourd avec d'importants dégâts matériels. Vous venez d'ailleurs de suivre le ministre Jean-Claude Mouyamou à ce sujet. Comment mettre fin à ces catastrophes? Comment va se passer concrètement l'indemnisation des victimes? Nounou Ngoï, vous êtes penché sur la question. On peut quand même dire que ça fait trop de crash en République démocratique du Congo.
Oui, JR, il faut dire que le ciel congolais est jugé le plus dangereux par l'organisation de l'aviation civile internationale. Il n'inspire plus confiance. Les crashs sont fréquents. Si je m'abuse, chaque année, on compte au moins un crash d'avion en RDC. En l'espace d'une année, il y a eu au moins 8 crashs. Et tous ces accidents inquiètent de plus en plus la population, car il y a toujours des morts et d'importants dégâts matériels. Nous avons à cet effet tendu notre micro à plusieurs personnes. Elles expriment leur indignation.
En tant que Congolais, ça passe parce que le gouvernement quand même a problème il y a l'aéroport en Abisso. Notre aéroport à Goma, bandaka volcan et diminue quand même longueur il y a aéroport il y a Goma et jusqu'à la Bongsangote. Et d'après la patrouille, il fallait Bongsango, t'as la scoba trois ou coufa.
Ngai pour moi, la monique les Cambézalio en a trop bas revoir Bavion. Bavion est commis à Mingi, est commis à Kala, tout ça, pour réparer, pour moi, tout ça, mais barré.
Bon, ce qui veut dire que les dirigeants Mboko, les peuples congolais, ils sont pour la calaté.
Voilà, on comprend que la population est très indignée. C'est ce qui étonne plus d'une personne, malgré que les entourneaux sont interdits de voler le ciel congolais, et il y a toujours des crashs. Le dernier en date n'est pas un Antonov, on parle plutôt d'un décès.
Tout à fait, JR. Si on avait d'abord frappé les Antonov à voler, c'est parce qu'ils avaient battu les records par rapport au nombre de crashs. Il faut dire qu'on a connu beaucoup d'accidents d'avion dans notre pays, et pour la plupart, c'était des Antonov. La plus grande catastrophe reste d'ailleurs le crash de l'Antonov 32, qui s'était écrasé sur le marché Tipta en 1996, faisant plus de 300 morts. Mais le dernier accident en date que nous déplorons aujourd'hui n'est pas causé par un Antonov, mais plutôt un DC-9. Qu'à cela ne tienne, JR, notre confrère Georges Kamoujoba nous a fait le point sur les derniers crashs que nous avons connus dans notre pays suivant.
Sur 136 crashs répertoriés dans le monde en 2007, 8 se sont produits en RDC. L'année dernière, le douloureux festival a fait plus de 80 morts, et parmi ces crashs, celui de l'Antonov 26 le 4 octobre à Kinshasa, et qui a fait 50 morts. Un mois avant le crash de Kinshasa, c'était Goma avec la mort d'au moins 5 personnes dans un Antonov 24. Le 26 août 2007, une dizaine de personnes mouraient à Kongolo, au Katanga, dans les mêmes circonstances. Cela fait aussi plus de 6 mois qu'un avion qui quittait Kisangani pour Goma est porté disparu. Jusque-là, Eva Bora n'était pas enregistrée dans les différents cas. La compagnie est toutefois interdite de vol en Europe. Elle a conclu fin 2007 un partenariat avec Brussels Airlines en créant RDC. Avec ce nouvel accident, RDC pourrait, dès sa naissance, se retrouver interdite de vol en Europe.
Voilà, avec tous ces crashs, il y a lieu de se demander si nous avions, font régulièrement alerte entretien, Nungoy.
En principe, un avion doit faire un check-in, c'est-à-dire un contrôle après un certain nombre de vols. Mais ici chez nous, l'entretien des avions se fait lorsqu'il y a disponibilité. Nous avons à cet effet posé la question à un technicien d'aviation d'une grande compagnie de la place. Il répond.
Normalement, l'avion doit rentrer toujours en entretien. Après quelques vols, l'avion rentre en hangar pour la maintenance. Bon, ça dépend, puisque nous ici, quand nous avons un jour de repos, par exemple, le lundi, il y a d'autres avions qui ne volent pas. Bon, on regarde sur les gros reports tous les défauts que les commandants ont écrits. Les défauts qu'ils ont trouvés en vol, on les amène dans les terres et nous les effectuons en cherchant les procédures, la maintenance. Les entretiens des avions. Quand nous avons la disponibilité de l'avion au hangar, on ne les laisse pas comme ça, on regarde. S'il y a des problèmes, on les résout.
Voilà. Est-ce que nos avions répondent-ils aux normes de l'aviation civile? Ça n'est encore une question.
Oui, JR, c'est là la grande question. Nous avons dans notre pays plusieurs compagnies d'aviation. Il suffit d'être à l'aéroport de Njili pour voir le nombre impressionnant d'avions qui traînent sur le tarmac. Mais dans quel état sont-ils? Normalement, il y a des normes à respecter pour l'aviation civile. Monsieur Yuma, directeur technique de Ewabora, nous en parle.
En République démocratique du Congo, nous avons une autorité aéronautique qu'on appelle la direction de l'aéronautique civile. C'est l'autorité aéronautique qui supervise la sécurité d'exploitation des avions qui sont immatriculés dans notre pays. Ces autorités, à leur tour, édictent aussi les règlements qui s'ajoutent aux normes prévues par les constructeurs. Et au niveau international, il y a aussi l'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui, depuis la Convention de Chicago, en 1944, jusqu'aujourd'hui, avait édicté des normes et continue à édicter des normes qui doivent être respectées dans les différents secteurs, hein, aussi bien dans le secteur commercial, dans le secteur technique, dans le secteur d'exploitation. Il y a aussi d'autres organismes internationaux tels que l'IATA qui, à leur niveau, édictent des normes qui sont importantes dans les différents secteurs de l'aviation civile.
Alors, d'aucuns aimeraient savoir ce que dit l'autorité face à cet état des choses, Nounou.
Hier, nous avons eu un entretien la semaine dernière avec le ministre des Transports et Voies de Communication, Mwanje Simba. Il reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur suivant.
J'ai effectué ces jours-ci des visites de toutes les compagnies pour savoir qu'est-ce qui se passe et d'abord qui fait quoi. Il faut ajouter à ça un autre élément relevant de la sécurité. Il vous souviendra que nous avons connu une catastrophe, l'accident des Kinshasa qui était une sorte de type K2. À la suite de cet accident, des mesures draconiennes ont été prises pour que les Antonov qui volaient aussi et qui desservaient les gros du pays, c'est pour la plupart des engins, n'est-ce pas, qui n'avaient même plus d'identité au plan international. Nous avons dû donc sélectionner quelques appareils seulement pour assurer les vols, mais ceci ne couvre pas les territoires. Raison pour laquelle le gouvernement de la République est préoccupé par la nécessité de lancer une compagnie nationale fiable.
Voilà, alors Nounou, on va clore cet entretien, mais on ne peut pas se quitter sans pour autant que vous nous donniez cette précision, parce que la partie essentielle, c'est l'indemnisation des victimes. Est-ce que, ces dernières seront-elles indemnisées?
Bon, JR, d'après M. Stravos, patron de Ewabora, que nous avons reçu mercredi dernier, son avion était bien assuré par la SONAS. Raison pour laquelle nous avons associé à cette émission l'ADG de la SONAS qui est avec nous dans ce studio.
Voilà, merci Nounou et à très bientôt.
Merci, Gérard. Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Herman Mbonio, vous êtes la DG de la SONAS. Vous êtes dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Disons, c'est vous qui êtes l'assureur de Léa Boura. Vous pouvez confirmer?
Oui, tout à fait.
Alors, qu'en est-il de l'indemnisation? Parce que là, vous êtes accusé, et il faudrait déjà parler de cette question de l'indemnisation. Tout le monde en parle. Dans bien des cas, il y a des catastrophes. C'est toujours cette question qui radia.
Écoutez, avant toute chose, je voudrais dire ma compassion pour les victimes. Ma pensée va évidemment aux 42 morts pour l'instant et à tous les blessés qui sont dans la souffrance. Je ne crois pas que la SONAS soit au banc des accusés parce que d'abord, nous prenons nos responsabilités. Cet agent était effectivement assuré. S'il s'agit bien du DC9 immatriculé 9QCHN, s'il s'agit de cet avion, pourquoi je prends cette réserve? Simplement parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore les rapports de la direction de l'aviation civile. Vous savez que l'indemnisation obéit à une procédure. Cette procédure suppose l'identification de l'avion, suppose la transmission à la SONAS d'un certain nombre d'éléments administratifs, notamment le manifeste de vol de cet avion et un certain nombre d'autorisations. Donc nous attendons d'avoir tous les éléments. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà engagé une mission qui est sur place à Goma, qui est en train d'opérer pour calculer en fait le niveau d'indemnisation qui devrait intervenir si tous les éléments administratifs en notre possession nous autorisent à intervenir. Je voudrais également souligner que cette enquête nous permettra également de déterminer les responsabilités. Vous savez que la SONAS est assureur, mais la SONAS est aussi subrogée dans le droit de son assuré pour éventuellement exercer les actions. Je suis attentivement les spécialistes qui est à mes côtés, qui semblaient s'étonner de la longueur de la piste et des possibilités réelles d'exploitation de cette piste. On nous dit que cette piste devait faire 3000 mètres, elle en faisait plus que 2000. Donc nous avons besoin de tous les éléments techniques pour nous déterminer. Quoi qu'il en soit, la SONAS prendra ses responsabilités, prendra ses responsabilités en étant sur place, et nous ne laisserons pas tomber les victimes. Nous ferons de toutes les façons de telle sorte qu'ils soient pris en charge, et nous avons déjà commencé.
Oui, mais de toutes les façons, disons, la population n'attend que ça, mais ce qu'on reproche à la SONAS, c'est une certaine lenteur. Est-ce que cette fois-ci, ça sera automatique, à part que vous ayez tous les éléments?
Écoutez, je pense que la SONAS ne peut pas sans cesse se justifier sur son passé. Moi, j'ai été nommé il y a à peine 2 mois et demi, et je crois qu'en 2 mois et demi, nous avons démontré notre capacité à nous mobiliser pour essayer de faire des choses pour la population congolaise. Nous sommes aujourd'hui à 1 200 000 dollars de règlement de sinistre. Donc, bon, tout ça est une histoire ancienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un crash d'avion, nous sommes sur le terrain, nous évaluons les dommages et nous attendons maintenant d'avoir tous les éléments pour pouvoir jouer notre rôle. D'ailleurs, à ce propos, je trouve un tout petit peu dommage que des initiatives partent de partout au lieu de centraliser les actions pour justement être plus efficaces auprès des familles. Et c'est toujours un peu la même chanson, tout le monde tire la couverture à soi, on essaye d'être le premier sur place. La question, c'est pas d'être le premier sur place, la question, c'est d'être efficace. Les familles ont besoin qu'on les prenne en charge sérieusement, pas dans la démagogie, pas dans les effets d'annonce. Vous savez, quand tout le monde sera passé, la SONAS sera encore là en tant qu'institution de la République pour assumer les souffrances des familles. Nous, un blessé, nous l'assumons parfois pendant 2, 3, 10, 20 ans.
Monsieur le DG, c'est bien beau, de tels discours, mais cette indemnisation, ça sera aussi considérable, ça sera aussi significatif, parce que il ne faudrait pas que les gens commencent à supputer ou à spéculer autour de cette indemnisation. Est-ce que ça passera directement au droit des victimes ou c'est par une personne interposée, notamment un représentant du gouvernement?
Non, écoutez, le gouvernement fait son travail, la SONAS fait le sien. Il n'y a pas de supputation, il y a des barèmes qui existent. Quelqu'un qui est blessé, on commence par le soigner, donc on essaye de payer tous les frais inhérents à ces soins. Nous avons identifié les hôpitaux dans lesquels sont aujourd'hui les victimes. Pour les personnes décédées, il existe également des barèmes. Ces barèmes seront respectés. Les capitaux sont limités, comme vous le savez, en matière aérienne, donc nous avons un barème fixé contractuellement. C'est ces barèmes qui sera respecté. Il n'y a pas de spéculation sur le montant, la procédure. La SONAS paye directement les dommages aux assurés. En l'occurrence, là, ce sont des victimes dans le cadre de la responsabilité civile des Wabora. Nous allons rentrer en contact avec eux directement. C'est pour ça que notre administrateur directeur technique est à Goma en ce moment pour évaluer, voir les victimes et prendre en charge directement les victimes, sous réserve, évidemment, que notre garantie soit engagée et sous réserve de toutes les actions subrogatoires que nous aurons à mener.
Alors, une question de curiosité, combien de compagnies aériennes sont réellement assurées auprès de la Sud-Sonas?
Vous savez, au Congo, il y a une règle qui est très simple. Un avion ne peut pas voler s'il ne présente pas un certificat d'assurance. Ce qui s'est passé malheureusement dans le passé, c'est qu'on a délivré ces certificats avec beaucoup de complaisance, au point qu'aujourd'hui, on a tout le monde qui est assuré, mais on n'est pas sûr que tous ces gens aient réellement payé la prime correspondant aux dommages que nous subissons. Vous savez, nous avons déjà aujourd'hui en gestion l'affaire de l'Antonov du crash de Kinshasa, où là nous voyons le résultat avec lequel on a pu assurer cet avion. Donc aujourd'hui, les travaux que nous sommes en train de faire à la SONAS, c'est d'essayer, et nous avons eu une réunion avec la direction de l'aviation civile il y a un mois à peu près, pour préciser les règles d'assurabilité de ces avions et demander que le contrôle soit réellement effectif sur les appareils que nous assurons. Et désormais, nous n'assurerons plus d'appareils si nous n'avons pas un contrôle technique récent, c'est-à-dire datant de plus de 3 mois. C'est ce que nous faisons.
Oui, Herman Mouno, nous vous gardons encore dans ce studio et nous gardons encore le commandant Ilunga, ancien pilote aérien. On va poursuivre notre entretien dans un instant, donc après le flash d'information, et nous rappelons que les auditeurs peuvent participer au 081-800. Souvent notre entretien avec nos invités, à savoir le commandant Ilunga, ancien pilote aérien, et Herman Mouno, DG de la SONAS. Monsieur la DG, est-ce qu'on peut, on peut considérer ça comme une décision qui vient d'être tombée sur le dos des Radio Capi, disons en demandant aux compagnies aériennes de se mettre en règle avant d'obtenir l'assurance de la part de SONAS?
Enfin, c'est pas une décision, c'est la règle. Ils savent très bien que nous n'assurons que les avions qui ont un contrôle technique récent.
Alors, on va poursuivre Herman Bonnieu, DG de la SONAS, parce que nous recevons beaucoup de réactions dans ce studio. Tout à l'heure, vous avez suivi comme nous que vous avez eu à démarrer déjà depuis une semaine hein, cette opération d'indemnisation des victimes, des sinistrés.
Non, depuis un mois.
Depuis un mois. Et déjà, vous avez eu à débourser plus $1,300,000 américains.
Oui,
c'est beaucoup. Alors, avec ce crash, vous avez déjà une idée des victimes que vous allez indemniser? Est-ce que Wabora vous a communiqué la liste?
Oui, non, mais écoutez, on va pas commencer à faire une comptabilité macabre. Je crois qu'il est bientôt pour commencer maintenant à faire ces calculs-là. Nous savons qu'il y a 42 morts, donc ça nous donne une petite idée du niveau d'indemnisation. Vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, depuis que je suis à la tête de la SONAS, je refuse de faire de la démagogie. Donc, on parle des choses concrètes qu'on fait. Je crois que les victimes méritent un peu plus de respect. J'entends de mon temps qu'on les rapporte pour ces sujets, pour cela. Je crois qu'il faut avoir du respect pour ces gens-là. Ils sont victimes, ils n'ont rien demandé à personne. Ils étaient là un jour paisible, puis un avion est tombé sur leur tête. Il faut être sérieux. Faisons ça dans la dignité, dans la décence. La SONAS, je vous l'ai dit, est présente aujourd'hui. Elle sera encore là dans 20 ans quand tout le monde aura oublié, parce qu'on aura des paraplégiques qui pourront soigner tous les jours, qui resteront sur fauteuil roulant toute la vie. Donc moi, je ne veux pas qu'on traite ça comme ça à la légère.
Oui, on le comprend, mais nous savons néanmoins que vous risquez d'être débordé, hein, parce que bon, avec cette opération que vous avez commencée il y a de cela un mois, avec le nombre de victimes qui ne cesse d'augmenter, là, hein, Jason Lounené, qu'on a reçu tout à l'heure, le président de la société civile à Goma nous informe qu'on vient encore de sortir 5 corps hein, des décombres, ce qui fait au total 55 personnes qui ont trouvé la mort, et les autres qui sont en ce moment soignés dans les hôpitaux, on ne connaît pas leur nombre exact.
Alors, 104 est blessés exactement.
Oui, alors est-ce qu'il y aura suffisamment de fonds dans la caisse de la SONAS?
Vous savez, c'est toujours la même rengaine. La SONAS, c'est une mutualisation d'un certain nombre des risques. Alors, si les Congolais sont solidaires des victimes des Goma, qui viennent tous s'assurer. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui viennent payer une prime d'assurance à la SONAS participent quelque part à l'indemnisation et à la prise en charge des victimes des Goma. Quoi qu'il en soit, sachez une chose. La SONAS, aujourd'hui, est à nouveau crédible. Nous avons un programme avec des réassureurs internationaux. Nous avons un programme avec des banques qui nous suivent. Nous aurons les liquidités qu'il faut pour assumer ces crashs comme nous assumons les restes des sinistres. C'est une question de volonté, c'est une question de gestion rigoureuse de la chose publique. Nous ne serons pas débordés. On a l'habitude de dire qu'il y a pléthore dans les entreprises publiques. Voyez, pour une fois, les 2000 salariés de la SONAS vont tous se mobiliser pour soulager les souffrances des familles. S'il le faut, on fera un pôle pour la gestion de ces sinistres sur place à Goma avec un personnel suffisant pour assumer.
Et qu'est-ce qui va se passer pour des individus personnellement qui se sont fait assurer auprès de la SONAS? Parce qu'il y aura une indemnisation générale, mais en particulier, il y a aussi des victimes qui ont été assurées auprès de la SONAS. Donc, ils auront une double indemnisation.
Non, vous savez, en matière d'assurance des personnes, il est tout à fait admis le cumul d'indemnisation puisque c'est des capitaux qui s'accumulent. C'est pas comme en assurance des biens où on peut pas payer une voiture deux fois. Les problèmes, c'est pas tellement celui-là. Vous savez, c'est ce qui est déplorable aujourd'hui. C'est que quand on a un accident comme ça, il y a eu deux villages, je crois, totalement construits qui ont été détruits. Selon mes informations actuellement, ces deux villages n'étaient pas assurés. Selon mes informations également, mais bon, pour rester à confirmer, les personnes malheureusement au sol ne sont pas assurées parce qu'au Congo, nous avons insuffisamment développé les assurances incendie-habitation qui permettent d'avoir une multirisque dans le cas duquel nous assurons les individus. Donc malheureusement, la seule assurance qui va fonctionner, c'est la responsabilité civile d'Ewabora qui lui était assurée, mais les victimes, s'ils avaient été assurés, évidemment qu'ils auraient été indemnisés deux fois.
Carmen Mbonio, il faut reconnaître tout de même que la SONAS était, on dit bien, réputée pour sa lenteur. Aujourd'hui, bon, vous êtes en train de redorer le blason de la SONAS, mais que cela ne tienne. Il faudrait d'abord terminer l'indemnisation des sinistrés pour penser maintenant aux autres du crash des rapports.
Non, je ne vous laisse pas dire des choses comme ça. D'abord, c'est pas comme ça que ça marche. Nous ne sommes pas là pour hiérarchiser les souffrances.
Oui.
Je crois que le crash de Ewabora est un événement réel et je crois que la gravité des faits nous invite à plus de modération. Les victimes de Ewabora seront indemnisées indépendamment des autres programmes. Vous savez, la SONAS, c'est une société nationale avec 72 guichets, avec 56 agences. Donc, c'est pas une petite entreprise comme ça qui est débordée parce qu'il y a 3 blessés supplémentaires. Nous avons des structures pour gérer l'ensemble des problèmes et compte tenu de l'urgence, il est évident que nous allons nous tourner un peu plus vers les victimes d'Ewabora aujourd'hui parce que c'est eux qui ont le plus besoin qu'on vienne les secourir. Si vous me demandez de payer un sinistre qui a 15 ans, ce que nous faisons dans le cadre du programme d'assainissement des sinistres que nous avons lancé depuis un mois et de prendre en charge une victime qui est à l'hôpital tout de suite, je crois que le choix est...
Oui, monsieur l'ADG, dans les dispositions universelles dans la matière de l'assurance, il y a quand même un délai pour indemniser les victimes. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur ça? Aujourd'hui, la crash, il faut attendre combien d'années pour rentrer dans ce droit?
Je ne sais pas si avec l'illustre invité qui est à mes côtés, vous avez évoqué le crash du Mont-Saint-Odile à Strasbourg en France, un pays donc organisé où le droit des victimes sont respectés. Je crois que les victimes ont été indemnisées au bout de 10 ans. Nous n'attendrons pas 10 ans, les victimes d'Ewabora seront indemnisées dans des délais raisonnables. Nous attendrons à la SONAS les rapports de la direction de l'aviation civile. Comprenez que sans ces rapports, nous ne pouvons rien faire, même si nous avons une comptabilité du nombre de victimes, toutes ces choses-là. Ces nombres, ces chiffres que nous annoncent ne seront officiels que lorsque nous aurons un document officiel qui l'atteste. Je parle sous contrôle d'un spécialiste. La SONAS ne peut pas déclencher la procédure à elle seule. Pour l'instant, nous sommes en train de prendre toutes les mesures conservatoires pour être prêts le moment venu. Mais malheureusement, parfois c'est long, mais pas du fait des assureurs, du fait des autorités de l'aviation civile qui, eux, font des enquêtes très très poussées pour établir les responsabilités. Mmh. Sans compter qu'il y a des recours que la SONAS aura probablement à exercer qui détermineront aussi son niveau d'intervention. Ce qui est sûr, et ça c'est peut-être le scoop qu'on peut annoncer, c'est que notre ADT est à Goma et n'est pas parti le même vite. Et je crois que nous ferons quelque chose d'un peu plus significatif que tout ce que nous avons entendu jusqu'ici.
Oui, ben voilà, on va revenir à vous et également au commandant Ilunga, ancien pilote à Air Zaïre. Mais le temps de la balade à travers le pays, là nous sommes à Kinshasa pour parler de ce crash à répétition en République démocratique du Congo. Quelle solution ? Et nous avons dans ce studio deux invités, Herman Bonio, ADG de la SONAS, et commandant Ilunga, ancien pilote à Air Zaïre. Alors je reviens à vous, donc commandant Ilunga, disons, on peut dire aujourd'hui, est-ce que vous confirmez, comme tout le monde, que le ciel congolais est plus dangereux?
Oui, il est plus dangereux pour le moment parce que la direction de l'aviation civile qui a la charge justement de réglementer le ciel congolais doit nous démontrer qu'effectivement que ce ciel est tout à fait sain. Malheureusement, quand on voyons tous ces crashs depuis déjà un certain temps, ça ne rassure personne. Et il leur revient absolument de se mettre déjà à l'œuvre pour réglementer les choses dans ce pays. Parce que vouloir se complaire à parler des accidents comme si c'était vraiment, disons, un jeu de théâtre.
Ça devient un phénomène social.
Non. Moi, j'ai 30 ans de jeu de carrière dans ce métier, quand nous avons brûlé. Mais je peux dire, en 30 ans, peut-être. On a vu peut-être deux crashs.
D'autant penser que après le crash de Kinshasa, disons les dispositions allaient être prises donc au niveau de la direction aéronautique civile. Mais on a comme l'impression que ben voilà, rien n'a été fait.
Avant le crash de Kinshasa, nous sommes passés sur les antennes d'Antena. Nous avons déjà préconisé qu'attention, il faut faire attention. Dans ce pays, il va y avoir des crashs. Je crois, trois semaines après, les crashs ont eu lieu.
Avant les crashs, on vous a taxé des prophètes de malheur.
Ils peuvent le dire. Mais ce que nous disons, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Hein? C'est au gouvernement d'entendre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, voilà, il y a crash, il y a des morts. Non. Il faut plutôt prévenir. Il faut prendre des actions préventives. Il faut se dire, qu'est-ce que ces experts-là disent? Il doit y avoir un lieu où on réfléchit à toutes ces mesures-là. J'espère qu'à l'adhésion de l'aviation civile, il y a un siège, il y a un local où il y a des savants, je peux les appeler comme ça, de la DAC, qui réfléchissent à tout ce qui s'est dit.
Commandant Ilunga, nous rappelons encore que vous êtes ancien pilote à Air Zaïr. Il y a pas mal de gens qui nous suivent et qui réagissent au 081-890-6394. La question s'adresse à vous directement, commandant Ilunga. Nous avons également une question qui s'adresse à la DG de la SONAS. La piste de l'aéroport de Mbandaka est longue de 2200 mètres, nous dit un auditeur. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour les gros avions d'atterrir sur cette piste?
Il n'y envoyait pas un DC-8 ni un DC-10. Hein. C'est tout juste.
Mais déjà, ça se fait. On envoie des DC-8 et des DC-10 là-bas.
Celui qui va autoriser que ces DC-8 ou ces DC-10 va là-bas, eh bien, il en prend ses responsabilités en cas de pépin. Mais il doit déjà lui-même, il y a des manuels là-dessus. On se base sur les manuels, il y a les performances, on doit regarder avec la compagnie qui veut aller là-bas, demander si oui ou non, il peut y aller. C'est la DAC qui peut le dire, ok, si vous y allez. Même la RVA doit savoir exactement si tel type d'appareil peut arriver chez lui ou pas. Au cas où tel type d'appareil arrive, c'est au risque payé de la compagnie. Et en cas de quoi, c'est la compagnie qui doit payer les autres changements.
Mais à votre époque, certains d'entre auditeurs qui nous le dit, à l'époque où vous étiez pilote, comment se fait-il qu'il n'y avait pas de crash à cette époque-là? C'est Philippe Roger qui vous pose la question depuis Kinshasa.
C'est la discipline qui existe à ce moment-là.
Vous en êtes sûr?
La discipline, rien d'autre. Nous étions très rigoureux en matière disciplinaire. Même quand nous formions nos pilotes, ces pilotes étaient vraiment mais contrôlés au maximum. On ne badinait pas d'ailleurs. Même l'horaire devait être respecté. Personne ne pouvait donner un ordre à un commandant de bord. Le commandant de bord devait se justifier. On lui donnait un programme à faire. Il y avait sa direction d'opération qui connaissait très bien les performances de l'endroit où il allait. Il suivait. En même temps, le pilote aussi avait son manuel. Il devait chaque fois voir là où on l'envoie, s'il peut y aller.
Mais RDN n'intéressait pas à Mbandaka ou encore à Goma? Ou pourquoi pas à Lubumbashi?
Nous avons atterri partout. Hein.
Ben alors, comment expliquer?
Vous savez qu'à Goma, nous avons atterri avec les DC-10 plusieurs fois.
Mais il n'y a pas eu de crash?
Non. Parce que la piste était là. Nous avions étudié les performances pour admettre un DC-8, un DC-10. Mais si, admettons, c'était aujourd'hui, avec le DC-10 et le DC-8, si l'AC avait ces deux avions-là, nous n'essayerions pas d'aller là-bas. Nous n'essayerions pas d'aller. Nous aurions refusé d'y aller.
Dans la solution aujourd'hui, il faut qu'on puisse allonger la piste.
Il faut. Ça,
c'est carrément on délocalise l'aéroport.
C'est une recommandation si on veut, parce que les gens des Goma ont besoin d'avions. Hein, ils ont besoin vraiment de produits et tout ça. Mais pour avoir tout ça, pour manger, il faut manger en toute sécurité. Tout ce que je peux recommander, moi, c'est qu'on puisse prolonger absolument cette piste-là. Pour que les gros avions dont on a besoin aujourd'hui puisse y aller dans l'état actuel tel que ça se trouve. Je vous ai dit depuis 1998, lorsque on a réduit seulement cette piste, pour nous, on devait absolument d'abord fermer l'aéroport, pas pour tous les avions, mais du moins pour les gros avions. Si tous les avions à l'élection, d'ailleurs la Monique, avec les 727, ils ne vont pas. Mais ils savent pourquoi ils ne vont pas.
Mais,
pourquoi
mais,
nous, on devrait y aller?
Mais comment non? Puisque vous en parlez, est-ce que l'État congolais fait recours à l'expertise des anciens pilotes de la trompe, justement de votre trompe, comme on a eu?
Je suis content que vous, vous m'ayez rappelé ici, que vous aussi fassiez le même. S'ils le faisaient, je crois que nous serions arrivés vraiment à...
Donc ils ne l'ont jamais fait?
S'ils l'ont fait, vous m'auriez certainement entendu, je vous aurais dit ici, tel jour, j'ai pris telle position.
Non mais on peut faire écho à vous, mais si le sérieux n'est pas enregistré du côté de la DAC, ça sera peut-être le même film qui va se produire.
Moi je ne les oblige pas, ils sont libres de d'agir.
Parce que le mal est profond, il faut d'abord commencer par déraciner.
Je crois que nous avons des experts ici, même au niveau de la compagnie nationale. Hein? Nous sommes au service de la nation. À tout moment, si, admettons, on me demande, on me pose une question, on voudrait que j'ai contribué à ce que vraiment ce pays avance, je ne refuserai pas.
Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a certains pilotes qui n'ont pas suffisamment d'expérience. Il y a aussi un autre problème, c'est le problème des pistes d'atterrissage, qui pourrait aussi peut-être penser à réhabiliter.
Il faut absolument d'abord avoir des inspecteurs qui contrôlent tout le temps nos pistes. Il faut des inspecteurs qui contrôlent tout le temps les personnes navigantes. Il faut des inspecteurs qui contrôlent tout le temps les compagnies aériennes. Ce sont ces inspecteurs-là qui, en principe, doivent rentrer à la DAC, se réunir, étudier le problème, le transmettre à qui de droit pour prendre une décision finale.
Et ces inspecteurs devraient être objectifs dans leur travail.
Absolument, et indépendants.
Voilà. Donc c'est l'objectivité qui pourrait peut-être résoudre le problème.
Absolument.
Aussi longtemps qu'ils seront au service de...
Non,
pas je crois que ça
pose un problème. Il ne faut pas qu'il y ait un PDG super ou quelqu'un qui se dit, lui, il est vraiment, il a l'autorité en main, et il doit influencer tel ou tel inspecteur, ou bien il doit soudoyer tel inspecteur. Non, c'est un corps des choses de personnel indépendant. Et il faut qu'il soit crédible.
Ces inspecteurs devraient être très bien payés, hein, pour bien faire leur travail. Parce que sinon, ils vont très vite tomber dans la corruption. Hein.
Bien sûr, quand on prend un expert des choses expatriées, on lui paye cher. Hein.
À votre époque, il y avait des inspecteurs?
Ah oui.
Et ils faisaient bien leur travail?
Ah oui. Ah oui. Même dans la compagnie nationale. Hein. J'en faisais partie d'ailleurs.
Oui, revenons à la DG de la SONAS, Herman Morio. Disons, la partie la plus essentielle que tout le monde attend, c'est cette indemnisation. Est-ce que vous avez déjà, comme vous avez dit, vous n'allez pas attendre 10 ans, est-ce que vous avez déjà eu une idée, quand est-ce que vous allez déclencher l'opération?
Et la question a été posée par Emery depuis Goma.
Oh, ben, écoutez, merci à Emery pour sa question, mais on va faire une redite. Nous attendons les rapports de la direction de l'aviation civile pour avoir tous les éléments objectifs pour pouvoir indemniser. Ensuite, nous allons déclencher l'indemnisation. Quoi qu'il en soit, en attendant, nous démarrons aujourd'hui une opération humanitaire pour secourir les familles qui sont le plus dans le besoin, indépendamment de l'indemnisation qui va arriver.
Et l'opération humanitaire, que consiste-t-on pas concrètement?
Écoutez, aujourd'hui, nous avons une mise de fonds d'à peu près 100 000 $ disponible à Goma pour identifier les problèmes et voir dans quelle mesure les résoudre. Ça sera une avance sur l'indemnisation à venir si il est établi que la SONAS doit indemniser. Encore une fois, la procédure n'est qu'au début parce que nous avons des actions à mener, y compris éventuellement contre les responsables de la piste et contre les responsables du contrôle de l'avion. Nous allons nous subroger dans le droit de notre assuré pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Donc on peut dire que cette assistance humanitaire est exécutée sous fonds propres de la SONAS?
Sous fonds propres de la SONAS, effectivement. Notre administrateur directeur technique est à Goma et va aller rendre visite aux blessés que nous avons identifiés, 104 personnes à peu près, dans 4-5 hôpitaux. On va voir pour faire vraiment au mieux pour soulager les souffrances immédiates des familles.
Et c'est évalué à combien à peu près l'indemnisation humanitaire?
Non, nous avons une enveloppe. Vous savez comment ça marche? Nous avons une enveloppe. Nous allons sur place, nous évaluons. Comme nous ne sommes pas encore dans l'indemnisation, nous regardons sur place. On trouve quelqu'un à l'hôpital qui ne peut pas payer. Donc on paye. Donc on ne peut pas vous dire combien on va faire. On vous dit, nous avons disponibilisé des moyens. Pour l'instant, notre première mise est de 100 000 $ pour permettre des actions rapides.
Donc pour l'instant, c'est 100 000 $.
Oui.
Oui, ben alors parlons de bon, on sait que la FEDAS, vous êtes là il y a 2 mois, votre comité, sûrement vous avez hérité l'actif et le passif de vos prédécesseurs. Vous savez que la FEDAS devait en principe indemniser d'autres personnes qui ont connu aussi des cas de crash. On n'avait pas peut-être l'occasion de faire les larrons. Est-ce que vous avez aussi une idée pour ces personnes-là?
Sipka, par exemple.
Sipka, Kindersani.
Vous savez, j'ai hérité de la SEDAS avec un droit d'inventaire, hein, l'actif et le passif. Si on continue à gérer le passif de la SEDAS ne décollera jamais. Moi, je gère le futur de la SEDAS. Donc, pour l'instant, notre engagement, c'est de gérer les problèmes tels que viennent. Le crash de Kingasani, j'ai...
C'est oublié.
Non, pas du tout. Ne dites pas ça, vous savez. Les crash de Kingasani, les familles qui m'entendent savent que nous nous réunissons depuis que nous sommes là tous les lundis. Je prends sur moi de les réunir, de leur expliquer ce que nous allons faire. Ils le savent. Simplement, comme on ne veut pas faire dans la démagogie, on ne vient pas les crier aux 20h ou aux antennes de radio.
Alors, Kipka, dans les oubliettes.
Non, il n'y a rien dans les oubliettes, vous savez. Heureusement que nous sommes encore en état de mémoire où il y a des juristes qui ont suivi ces dossiers, qui ont instruit ces dossiers. Nous avons été transparents. On dit qu'on nous apporte les dossiers, qu'on examine les possibilités d'intervention, et c'est ce qui se passe. Donc il n'y a rien qui est oublié, rien ne sera oublié. Simplement, gérons les choses au fur et à mesure. Vous comprenez que c'est un tout petit peu indécent aujourd'hui de dire à quelqu'un qui est en train d'agoniser à Goma que je préfère m'occuper des types K. Donc on est dans l'actualité immédiate, je crois que c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, gérons les choses d'aujourd'hui et les autres choses sont déjà gérées.
Alors une dernière question de curiosité, comment ça va se passer concrètement? Parce que vous avez, disons, le DSNF, la Bora qui était assuré à Sonas. Alors l'individu, personnellement, qu'est-ce qu'il sera demandé avant qu'il entre, qu'il rentre dans ce droit? Il y a quand même des critères, qu'est-ce qu'il doit présenter comme document?
Non, très peu de choses. Il doit démontrer qu'il y a un lien de cause à effet entre ces dommages et le crash. On ne va pas se mettre à prendre en charge tous les morts de Goma pendant cette période-là, ni tous les blessés de Goma. Donc il faut quand même qu'il y ait un lien direct établi juridiquement entre le crash et le souffrant des victimes. Autrement dit, nous garantissons les victimes réelles du crash.
Alors la question s'adresse directement au commandant Ilunga, puisque compte tenu de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé, ce crash qu'on vient de vivre à Goma, est-ce qu'on peut encore craindre d'autres crashs dans les jours à venir, commandant Ilunga?
Oui, madame, si les mesures ne sont pas prises à temps, si on continue à vivre tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous aurons encore des crashs. Parce que, comme je vous ai dit, dans tous les aéroports, il y a toujours des constructions un peu anarchiques, le long des pistes, tout ça. Il faut qu'on évacue ça. Et ensuite, il faut qu'on vérifie d'ailleurs tous les pistes de chaud du pays par des experts qui peuvent passer de temps en temps aller dire exactement ce qu'on doit arranger sur ces pistes-là. Il faut que, bien sûr, le suivi dans les compagnies aériennes soit rigoureuse, que la formation des pilotes soit rigoureuse également. On voit également les licences, leurs compétences. Tout ça peut nous aider. Vraiment, il ne faut pas seulement attendre le jour du crash, non. C'est-à-dire, c'est un travail de jour en jour. Chaque jour qui passe, on doit savoir lorsqu'on se réveille, si oui ou non, les aéroports se répondent aux normes, si les choses de personnes navigantes sont en ordre, et si même les choses des aérogares sont en ordre, les produits que nous transportons dans ces avions sont des produits réglementés.
Oui.
Tout ça, même la SONAS d'ailleurs, elle a un grand rôle. Pourrait même d'ailleurs nous aider. Parfois, venez dire, écoutez, moi j'assure pour ça et ça et ça. Lorsque vous êtes en dehors de ceci,
vous êtes d'avis avec ceux-là qui disent que l'assainissement de l'espace aérien congolais exige beaucoup de moyens.
Oui, si vous voulez la sécurité, il faut le paquet. La sécurité n'a pas de prix.
À l'époque, à votre époque, la sécurité aérienne, vous avez une idée sur le montant? À l'époque, on déboursait à peu près combien?
Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'était un grand montant.
C'était évalué en millions.
C'était un million de dollars.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez encore à voler, commandant Ilunga?
Non. Je dois laisser maintenant à mes jeunes.
Vous avez pris votre retraite.
À mes jeunes. Pas encore, mais je laisse à mes jeunes.
Mais est-ce que les anciens pilotes ont pu constituer une association
De votre génération?
Oui.
Nous avons fait d'ailleurs une association de pilotes que j'ai laissé bien sûr aux jeunes. C'était aux jeunes de continuer à entretenir cette association.
Commandant Ilunga, nous rappelons que vous êtes ancien pilote à Air Zaïre. Merci d'avoir été les nôtres. Et nous profitons également pour dire merci à Herman Moyo, ADG de la SONAS. À très bientôt.
Merci.